Midi.
Europe 1.
Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour à tous.
Bienvenue dans votre émission Bien fait pour vous. Nous sommes en direct à vos côtés jusqu'à midi. Et ce matin, nous allons réfléchir ensemble à cette question. Aimez-vous vos pieds comme ils le méritent?
Eh oui, parce que bien que dessus toute la journée, on a pourtant tendance à les négliger au quotidien. Alors à l'occasion de la Journée nationale du pied, qui se déroule aujourd'hui, eh bien on a décidé non pas de leur rendre hommage, mais au moins de s'en préoccuper. Quels sont les soins dont ils ont besoin, ainsi que nos ongles? Quelles sont les erreurs que nous commettons? Comment bien se chausser pour les maintenir en forme? On vous donnera nos meilleurs conseils. Grâce à nos invités, nous recevrons Muriel Montanvert, podologue et secrétaire générale de l'Union française de la santé du pied, ainsi que France Guilin, elle est l'autrice du livre « Nos chers pieds » aux éditions du Rocher.
Ensuite, à 11h45, ce sera notre séquence tendance avec notre binôme de chroniqueurs. Aujourd'hui, on va commencer avec Philippine Darblay. Elle a enquêté pour nous sur le gâteau de l'été, la tropézienne. On en voit de plus en plus partout en France et pas uniquement dans le sud-est où elle est née. Et certains chefs la revisitent ou même l'allègent un peu. On en parlera avec elle. Et puis on va terminer l'émission avec la chronique beauté de Benjamin Lévesque. Lui aussi, il a testé pour nous le brossage à sec. C'est le geste beauté pour la peau qui fait le buzz en ce moment. Alors à adopter de toute urgence ou pas, on vous dira tout.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good. Notre question du jour, je vous la rappelle, aimez-vous vos pieds comme ils le méritent? Alors justement, je vous pose déjà la question à vous, Clément Lanoux, bonjour.
Bonjour.
Vous les aimez vos pieds, vous les aimez?
Je les adore, ils font partie de moi et j'ai d'ailleurs décidé aujourd'hui, avant de démarrer cette émission, de rendre hommage aux pieds. Alors j'ai bossé, je me suis dit, mais quel serait le plus beau, le plus bel hommage? Est-ce que ce serait ça, un petit numéro de claquette? Voilà. Je me suis dit, c'est pas très radiophonique.
Bon.
Je me débrouille, voilà.
On dirait un match de tennis.
Voilà, ouais, je me suis dit, c'est pas la bonne idée. Après, je me suis dit, je vais organiser un grand quiz avec plein de questions, toujours autour du pied et toutes les questions qu'on se pose depuis tant d'années. Est-ce que les orteils ont un nom? Est-ce qu'un grec peut avoir le pied égyptien? Est-ce qu'on peut avoir une mise à pied quand on donne un coup de main? Toutes ces réponses que je n'ai jamais eues. Et puis après, je me suis dit, non. Et je me suis intéressé au pied, je me suis rendu compte que le champ lexical du pied, le lexique, était vraiment à chaque fois très péjoratif. Conduire comme un pied, se tirer une balle dans le pied, être bête comme un pied. Et donc là, j'ai tranché. J'ai décidé ce matin, non pas de faire une chronique, mais de faire un poème. Un poème pour les pieds. C'est attention, c'est parti, ça s'appelle « L'injustice du pied ». Cher pied, sache que j'ai travaillé d'arrache-toi pour écrire ces quelques mots. Toi qui peux être de bœuf pour les jardiniers amateurs, de biche pour les voleurs, ou bien d'estal pour les admirateurs, tu es surtout le plus grand des oubliés. Même si les footballeurs te rentabilisent et que les fétichistes te font la bise, tu as pendant des années... n'était qu'une unité. Je serais d'ailleurs incapable de dire aujourd'hui en mètres combien mesure le danseur Benjamin Millepied. Bref, contrairement à ton ami la main, tu ne mets que très peu le nez dehors et quand tu le fais, on t'accuse parfois de sentir trop fort. L'hiver, on a beau faire des pédicures, la vraie star restera toujours la chaussure. Voilà mon très cher pied, j'espère que les auditeurs t'auront pris en m'écoutant.
Oh là là, c'est magnifique.
Quel talent.
Franchement, ça me va droit au pied.
On a pris notre pied en vous écoutant.
C'est j'étais au pied du mur, je l'ai, voilà, il y en a beaucoup.
Vous venez de dire que vous avez pris votre pied.
Mais j'ai pris mon pied en écoutant. Ouais.
La coquine. Merci Clément Lanoux. On va poursuivre à présent notre éclairage du jour sur la bonne santé de nos pieds. Et en studio aujourd'hui pour en parler, il y a déjà vous, Muriel Montanvert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes podologue et secrétaire générale de l'Union française de la santé du pied. À vos côtés aujourd'hui, il y a aussi France Guilin. Bonjour. Alors, vous, France, bonjour. Vous êtes l'auteur du livre « Nos chers pieds » au pluriel, paru aux éditions du Rocher. Alors, d'abord, Muriel, il faut quand même prendre conscience qu'on les sollicite de façon hallucinante quand même tout au long de la vie. À quel point vous pouvez
illustrer.
Est-ce que vous pouvez nous dire?
Bon.
Bien sûr. À quel point on se sert de nos pieds, en fait?
Les pieds, on les utilise tout le temps, puisqu'on fait entre 6 et 10 000 pas par jour. Et en une vie, on fait 2 fois et demi le tour de la Terre. Donc nos pieds, on en a besoin et c'est vraiment le premier mode de déplacement. Il faut en prendre soin.
France, vous êtes une ancienne navigatrice. Vous avez marché sur tous les continents et vous dites que nos pieds sont la première de nos libertés.
Complètement.
Surtout quand on se demande ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut vivre, quel travail on veut faire, etc. etc. On oublie très souvent que notre première liberté, ce sont nos pieds. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous pouvons toujours nous déplacer pour aller ailleurs. Après, on peut s'arranger pour le reste. Mais cette première liberté, en particulier quand les périodes sont difficiles, eh bien, c'est extrêmement intéressant de se souvenir qu'on a des pieds qui nous amènent là où nous voulons.
Où on veut, exactement. L'un après l'autre. Alors, vous dites aussi dans votre livre que l'apparition de nos pieds a contribué à développer notre cerveau. Ça veut dire quoi concrètement? Quel est le lien entre nos pieds et notre matière grise?
C'est surtout quand nous nous sommes redressés. Mm-hmm. C'est-à-dire que pendant longtemps, si vous allez vous balader dans les forêts du Canada, par exemple, et que vous voulez vraiment traverser la forêt, si vous ne suivez pas les chemins tout tracés, vous êtes obligé d'utiliser les mains. Parce que vous êtes obligé d'écarter les arbres, etc. Vos pieds rencontrent des creux, des bosses, donc vous vous tenez avec les mains. Ce qui fait que l'être humain, au départ vivant principalement sous les tropiques, ne serait-ce que pour s'alimenter, rentrer dans la forêt et utiliser ses mains. Et le plus souvent, quand il trouvait un fruit, il l'attrapait directement avec les dents. Et il l'arrachait avec les dents. Et du coup, il avait les mains très occupées. Quand il s'est redressé, ça s'est allé de pair peu à peu avec la sédentarisation, quand il s'est mis sur deux pieds, ce qui n'était pas prévu par la nature, parce que c'est quand même lourd encore, à ce moment-là, il a libéré les mains. Et en libérant les mains, il a pu éplucher, il a pu couper, il a pu faire toutes sortes de choses avec ses mains. Et en se redressant, il a permis plus d'intelligence du corps. Et le cerveau s'est développé, c'est là que s'est formé le cortex.
Ah bon, grâce à nos pieds.
À l'origine, on avait un seul œil, au milieu, comme ça. Ah il bon existe encore des sauriens qui ont encore un seul œil. Et notre cerveau a basculé et a coupé cet œil en deux. Et ce qui nous en reste, c'est du tissu rétinien entre les deux, qu'on appelle le troisième œil. Et ce qu'il en reste aussi, c'est que quand les rayons du soleil, enfin, pas qu'on regarde directement le soleil, mais les rayons qui pénètrent, qui touchent la rétine verticalement, ils se rejoignent là derrière, sur la pinéale, et ils vont ensuite jusqu'à l'hypophyse.
Incroyable, et c'est tout très ça intéressant grâce à nos pieds.
Grâce à nos pieds, et ça nous a donné une vision plus ouverte, une vision latérale, et on a vu le monde différemment. Incroyable. Et si vous regardez les enfants qui se mettent sur leurs pieds...
Pour la première fois,
c'est extraordinaire.
Bah oui, ils découvrent un monde.
Ouais. Extraordinaire. Comme nous.
D'un point de vue général, vous diriez quoi sur la santé de nos pieds, celle des Français? Je veux dire, elle est bonne ou pas, Muriel? Les Français, je crois, ils s'en soucient pas tellement de leurs pieds, ou alors quand c'est déjà trop tard, je crois.
Bah oui, on a près de 74% des Français qui ont mal aux pieds et seulement 54% qui consultent. Donc à un moment donné, il y a des choses qui peuvent être faites par le pédicure podologue. Il faut savoir que les douleurs aux pieds, elles ne vont pas passer toutes seules. Vous avez un ongle qui est abîmé, qui est incarné, vous avez une douleur aux pieds, une douleur aux genoux. Ça va avoir des impacts sur toute votre posture, sur tout votre équilibre. Donc n'attendez pas que ça s'aggrave parce que ça ne va pas se résoudre tout seul.
Donc effectivement, il faut en prendre soin de nos petits petons. France, vous qui avez marché sur tous les continents pieds nus, je crois que pour vous, vous dites que les chaussures, ce sont des boîtes à pieds. Et c'est ce qui expliquerait, vous dites, que nos pieds soient devenus plus fragiles à travers les époques.
Oui, parce que ce n'est pas la podologue qui va me contredire, parce que le quart de nos os est dans nos pieds. Donc, ça fait beaucoup d'os, beaucoup de ligaments, beaucoup de muscles. Et si on ne muscle pas ça, un pied, normalement, se déroule complètement. C'est-à-dire qu'il fait un mouvement...
Comme une vague, un peu.
Complètement. Et ce qui propulse les pieds, ce sont les orteils.
Et donc, quand ils sont enfermés dans des chaussures, le mouvement est plus contraint.
Et ça, j'en ai fait l'expérience maintes fois, parce que j'ai grandi en Polynésie, où on était pieds nus tout le temps. On courait, on remontait les rivières sur 15 km. Nous, on était pieds nus, on sautait de pierre en pierre sur les torrents.
Ah là là. Vous avez musclé vos pieds, vous hein?
Ah ben complètement. on attrapait les objets. Quand je suis arrivée à Paris, dans l'île Saint-Louis, d'un appartement très chic, chez une madame qui s'appelait De Bonnes Choses, ça ne s'invente pas, j'étais avec ma fille qui avait 3 ans, elle laisse tomber un crayon et moi, avec les orteils, j'étais toujours pieds nus, je ramasse le crayon, je le prends, voilà. Elle me dit, qu'est-ce que vous venez de faire, là? Vous pouvez me montrer? J'ai dit, quoi, est-ce que j'ai fait? Je ne voyais pas ce que j'avais fait. Elle me dit, mais vous avez ramassé le crayon
avec votre pied?
Je dis, oui, mais je ne vais pas me baisser pour ça.
Ah, c'est drôle. Est-ce que vous êtes très, une grande dextérité du pied, ouais. Mélanie.
On va s'entraîner. Merci à toutes les deux, vous restez avec nous à suivre. On va continuer à scruter de près nos pieds et leurs ongles et surtout à vous distiller tous nos meilleurs conseils pour les garder au top de leur forme, quel que soit notre âge. Ne bougez pas, car vous l'avez compris, vous avez de la chance. C'est le pied, comme on dit, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good Mieux Vivre. Et ce matin, on vous pose cette question. Aimez-vous vos pieds comme ils le méritent? Pour nous éclairer sur ce sujet, elles sont toujours en studio avec nous. France Guilin, auteure du livre Nos chers pieds aux éditions du Rocher, ainsi que Muriel Montanvert, podologue et secrétaire générale de l'Union française de la santé du pied. Alors, Muriel, cette année, vous mettez l'accent sur les pathologies de l'ongle hein, pour cette journée de mobilisation. On a de plus en plus de problèmes liés aux ongles. Ils se plaignent de quoi véritablement vos patients par rapport à ces ongles?
Alors sur les ongles, on va avoir plusieurs types de pathologies. Déjà les ongles incarnés. Il faut savoir que ongles incarnés...
Qui n'est pas passé par là hein, ouais. Je ne sais pas. Hein. Vous en avez déjà eu, Julia?
Non.
Ah bon, c'est très douloureux. Oui. vous l'avez pu expérimenter. C'est
assez mal. Opéré deux fois. Hein,
voilà. Il paraît que ça fait mal. Hein.
C'est assez douloureux. Il faut savoir que plus il est pris tôt, et mieux on arrive à le soulager. N'allez pas encombrer les urgences pour un ongle incarné. Prenez rendez-vous chez un pédicure podologue. On est là pour ça et on va pouvoir le traiter. Et surtout, on a tout un tas de solutions pour éviter la récidive, éviter que l'ongle revienne à l'intérieur. Donc ça, c'est la première pathologie. Après, les autres pathologies qu'on va avoir très fréquemment, puisqu'un Français sur trois
souffre... Ça, c'est Julia, je crois. Allez-y, je crois qu'elle souffre de ça.
De mycose.
Ah, énormément, à chaque pied. Non, mais c'est dégueulasse, Mélanie. Je vous remercie. Non, mais ça peut arriver, bien sûr.
Bien sûr, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est pas
parce
qu'on est sale.
C'est l'ongle un peu jaune, hein, c'est ça.
L'ongle qui est un peu jaune.
Moi, je l'ai déjà eu.
Le c'est champignon fréquent, hein. Vient se mettre sous l'ongle et va manger ce qu'on appelle le lit de l'ongle, qui est la surface entre la peau et l'ongle, et ça va l'épaissir, et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec des ongles un peu effrités.
Et rassurez Julia, c'est pas une question d'hygiène, hein, ce problème-là.
Non, non, non.
Je le savais, Mélanie, je prends une douche par jour, voire deux.
C'est vraiment pas que vous êtes sale, il n'y a pas de souci, c'est juste que
je suis rassurée.
Ça arrive, ça se développe dans les milieux chauds et humides, et on peut malheureusement tous en attraper, et il y en a qui ont des prédispositions à en avoir.
Et traiter tôt, c'est mieux, évidemment, pour en finir rapidement.
Toujours.
France, vous dites qu'après avoir marché pieds nus, donc sur plus de trois quarts du temps de votre vie, sans voir votre voûte plantaire s'affaisser, ça c'est important. Qu'est-ce que ça vous a apporté comme sensation? Déjà, on a envie de savoir, de marcher pieds nus comme ça les trois quarts de votre vie. Pourquoi vous aimez ça autant? Expliquez-nous.
Déjà, je me sens en meilleure sécurité. Parce que courir pieds nus sur des...
On peut donner votre âge à nos invités, parce que vous nous avez dit ça pendant la pause. On a un peu halluciné avec Julia. On s'est dit, marcher pieds nus, ça conserve. Hein. Vous avez
80 ans.
Voilà, et on dirait qu'elle en a 60.
Vous pouvez voir sur Europe 1.fr.
Bien à l'aise. Et vous pensez que le secret de votre longévité, de votre jeunesse incroyable, c'est la santé de vos pieds?
Ça fait partie.
Ouais.
Ça fait partie parce que c'est tout un ensemble. Quand on aime bien être pieds nus, on va beaucoup dans des endroits naturels, déjà. On mange des fruits, on mange des légumes.
On s'alimente bien. Et voilà. En termes de sensations, ça vous procure quoi, vous?
Alors ça donne un sentiment de présence beaucoup plus intense. Il y a des gens qui font des stages pour apprendre à se sentir au moment présent. Eh bien, si on vous parachute les yeux bandés, pieds nus quelque part, vous identifiez immédiatement la température du sol, son granité, est-ce que c'est de l'herbe, est-ce que vous êtes dans la nature, est-ce que vous êtes sur du béton, etc. etc.
En fait, vous faites de la méditation tout le temps, quasiment.
Et ben ça, justement, c'est assez extraordinaire parce que ça vous remet vraiment en contact avec le réel, on va dire ça comme ça. Et puis, en même temps, ça vous décharge au niveau électricité. Ça, c'est très intéressant.
Qu'est-ce que vous pensez, Muriel, justement, de cette idée de marcher pieds nus tout le temps? Je ne sais pas, du côté du professionnel de santé, ce qu'on en pense. Il y a des avantages, des inconvénients, peut-être?
Alors, marcher pieds nus, ça peut être bon, de marcher pieds nus à la maison, dans le jardin, sur le sable, pas de souci. Le seul point, alors, je pense que l'expérience de France est vraiment très intéressante, mais on est sur une expérience de vie. Aujourd'hui, de l'appliquer à tout le monde, se dire, tiens, je vais marcher pieds nus, attention. Voilà, on reste dans
la métro, vie. Dans la rue, c'est pas pratique hein, quand
non,
même.
Voilà,
et dangereux même.
Il faut faire attention, ça peut être dangereux. Mmh. Par contre, marcher pieds nus dans votre jardin, pourquoi pas. Je vais juste mettre un petit bémol. Attention, si vous êtes diabétique, si vous avez des problèmes de santé, on évite au maximum de marcher pieds nus parce que si vous risquez d'avoir une plaie, elle va pas bien cicatriser et là, vous allez avoir plus de problèmes. Donc, c'est bien. Le pied nu, ça permet de s'ancrer au sol, comme dit France. On a vraiment ce sentiment d'appartenir au sol. Mais voilà, dans l'usage quotidien, attention.
Il faut faire attention. Je crois, France, que vous préconisez tout de même les chaussures de sport à doigts. Alors, c'est quoi ça?
Voilà, alors justement, c'est exactement dans cet esprit-là. Il existe des chaussures qui ont des doigts.
Comme
des chaussettes.
Comme des gants, hein, c'est
oui,
ça?
Oui, c'est comme des gants.
C'est pas désagréable à porter, ça? J'ai jamais essayé, non?
Alors, pour moi, c'est très agréable. Moi, j'y rentre comme ça en écartant les orteils. Ah. Mais beaucoup de gens sont obligés de placer leurs orteils doigt par doigt pour les faire rentrer dans les cages.
Ils ne sont pas aussi agiles que vous. Hein.
Voilà. Mais sinon, il existe des petites chaussettes. Au Japon, les femmes portent des escarpins avec des chaussettes à doigts. Ça a un avantage, c'est que ça évite la macération, la transpiration
entre les orteils
et le frottement. C'est très confortable. Moi, j'ai même fait ça avec des talons, des beaux talons, un collant par-dessus, mais comme la socle est très basse et très fine, c'est pas du tout gênant.
On ne la voit pas, c'est plus confortable et en plus ça ne macère pas.
Voilà. Et sinon, il y a pour marcher dehors, c'est
des
chaussures à doigts comme ça qui ont l'avantage de permettre aux pieds de se dérouler.
Bien.
C'est pas aussi parfait que pieds nus, mais c'est quand même pas mal. Ça remuscle. Moi j'ai vu beaucoup de gens qui avaient les orteils qui tournaient et qui se sont redressés au bout d'un an comme ça.
Muriel, je reviens sur la thématique de la journée aujourd'hui de mobilisation, les ongles, donc s'occuper de nos ongles, j'y reviens tout de suite. Ça peut paraître futile comme ça, dire bon, il faut que je m'occupe de mes ongles de pied, mais vous dites que non, nos ongles ont un rôle vraiment très important. Leur rôle premier est aussi de nous protéger, mais alors de nous protéger de quoi au niveau des pieds?
En fait, les ongles, aussi bien sur les pieds que sur les mains, ils ont pour but de protéger les extrémités des chocs. Donc, ils vont être très importants. Et si vous enlevez un morceau d'ongle, vous l'avez vu, vous ne vous sentez pas bien, c'est très douloureux. Mmh. Et puis, vous n'allez pas avoir le même ajustement de votre posture parce que vos bouts d'orteils vont être moins performants. Donc ça, c'est important.
Et j'avais une question pour monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire nous, comment on se coupe bien les ongles? Je ne sais pas, au ciseau, au coupe-ongles, c'est quoi le mieux, la technique pour bien le faire?
Alors, la bonne technique, c'est de les couper droit et surtout, on évite d'aller dans les coins. Plus on va aller dans les coins, plus ça va être profond. Donc ce qu'on préconise, c'est l'utilisation du coupe-ongles qui fait une coupe nette et franche. Si vous avez peur de vous abîmer les coins des ongles, un petit coup de lime et ça sera très bien.
Et on a une question pour vous Muriel, d'une jeune maman, hein, Sandra sur Instagram, qui vous demande à quel âge on commence à couper les ongles de son enfant. Son bébé a 2 semaines et la pédiatre lui a dit de ne pas y toucher pour le moment.
Alors 2 semaines, c'est un peu tôt. Maintenant, on va les couper dès qu'ils vont être longs. C'est pas rare de voir des enfants, des nouveau-nés, avec des ongles un peu plus longs que ce qu'on pourrait imaginer.
Ils naissent avec des griffes, parfois, ils nous font mal même.
Bah, ils sont terminés jusqu'au bout des ongles.
C'est ça. Et parfois, on leur met des petits gants, les pauvres.
On peut leur mettre des petits gants pour éviter qu'ils se griffent. Alors l'avantage, c'est qu'à cet âge-là, l'ongle est encore très mou, donc il n'y a pas trop de risques. Mais là aussi, elles considèrent que l'ongle est un petit peu long. On prend un petit coupe-ongle de bébé. Je trouve que c'est mieux que des ciseaux. En tant que maman, j'ai jamais réussi à couper les ongles des pieds de mes enfants avec des ciseaux.
Mais avec des petits
coupongles. Avec un petit coupongle et on le fait délicatement.
France, dans votre livre, on découvre aussi une étude assez troublante. Vous dites que près d'un être humain sur 13 aurait des pieds de singe. Expliquez-nous rapidement cette histoire.
Oui, ce fut une découverte merveilleuse pour moi parce qu'on souhaitait payer ma tête pendant des années parce que je n'arrivais jamais à courir avec des tennis, avec des baskets parce que les gens posent le talon en premier. Et moi, je cours sur la pointe des pieds. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, formidable, je fais partie d'une catégorie normale.
Vous avez des pieds de singe alors?
Voilà, parce que j'ai énormément grimpé aux arbres. J'ai grandi en Polynésie. On était tout le temps, nous on n'avait pas de macadam, il y avait 2 kilomètres de macadam dans l'île, donc on marchait sur des sols naturels et on grimpait énormément aux arbres. Moi j'allais étudier mes leçons dans un manguier.
Ça nous fait rêver.
Nous aussi on veut des pieds de singe et des manguiers pour étudier. Ouais.
J'avais pas de chambre à moi, mais par contre j'avais tous les arbres que je voulais. Donc je grimpais dans les arbres et puis je hurlais mes leçons dans les arbres. Et donc l'habitude de grimper tout le temps partout, le pied prend la forme des branches.
Ah, c'est génial.
Le pied a une préhension. Et alors, c'est vrai que moi, grimper dans un arbre avec des baskets, je suis incapable.
Mais à pieds nus, alors là, voilà. comme une bête. Oui. Et ben, merci beaucoup. merci à vous deux, hein, c'est très clair. Hein, c'était bien Mélanie, hein, vraiment.
Bon, dans Bien fait pour vous, on ne vous a pas encore tout dit sur ce qu'il faut faire pour avoir des pieds et des ongles au top toute l'année, toute la vie même. On va parler dans un instant justement des soins à leur apporter, des choses simples que vous pourrez reproduire chez vous. On y revient dans quelques minutes, restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Notre question du jour, la voici. Aimez-vous vos pieds comme ils le méritent? Si ce n'est pas le cas, il est encore temps. Et ce matin, on va vous expliquer tout avec France Guilin, auteur du livre Nos chers pieds aux éditions du Rocher, ainsi que Muriel Montanvert, podologue et secrétaire générale de l'Union française de la santé du pied. Alors Muriel, on n'est pas tous égaux sur la qualité de nos ongles de pied, comme pour les cheveux ou pour d'autres choses. Concernant les ongles notamment, certains les ont striés, d'autres plus lisses. Comment on explique? Est-ce que je c'est génétique, comment ça se passe?
Oui, c'est une des prédispositions, comme on a des, il y en a qui ont des cheveux plus secs et des cheveux qui sont un peu plus gras. Les ongles, c'est la même chose. On a des ongles qui sont de meilleure qualité ou qui sont un peu plus striés, un peu plus fragiles.
C'est grave d'ailleurs de les avoir striés, parce que c'est vrai qu'on voit notamment des personnes en vieillissant. Est-ce que ça se ride les ongles?
Ça se ride pas, ça se dessèche.
J'ai regardé ceux de notre amie France.
Elles sont pas, ils se dessèchent et ils font des petites
stries. Elle a des pieds parfaits, des ongles de doigts parfaits aussi. France, franchement, c'est pas normal tout ça.
Non, mais c'est qu'elle en prend soin, c'est pour ça. Mais voilà, mais après, il faut les hydrater et utiliser des soins adaptés par rapport à la qualité de vos ongles.
Non, mais moi, j'ai percé le secret de France parce que j'ai lu son livre et je sais qu'elle fait de la marche nordique. Alors, c'est peut-être ça. Rappelez-nous à quoi ressemble cette marche et en quoi elle peut être bénéfique pour nos pieds et pour tout le reste.
Alors pareil, j'aime beaucoup la faire pieds nus, mais c'est pas toujours évident, donc je préfère les chaussures à doigts. Le grand avantage, c'est que ça répartit les poids sur toutes les articulations. Je me souviens d'un monsieur qui sortait de sa voiture plié en quatre sur sa canne, et puis je l'ai revu un quart d'heure après, c'était aux Canaries. Je l'ai vu marcher vraiment bien droit avec un sac à dos et avec deux bâtons. Je me suis dit, c'est stupide d'avoir une canne, il vaut mieux avoir deux bâtons, parce que moi j'ai fait beaucoup de physique, donc chaque articulation c'est une poulie qui démultiplie les efforts, et donc il répartissait toute son énergie sur tout le corps, et résultat il marchait très très bien. Et donc là je me suis dit ça revient un peu à se balader dans la forêt.
On en voit même dans les parcs à Paris, des gens qui font de la marche nordique
et
comme
c'est
ça,
très très bien, et moi je recommande à toutes les personnes qui ont
tous les
surpoids,
âges en plus,
etc., pour éviter de fatiguer les articulations, y compris les pieds, bien évidemment. D'ailleurs, en écrasant les pieds se déforment. C'est pas la podologue qui va me dire le contraire. Et donc, c'est
Une belle activité. Hein. Oui. France, on n'arrête pas depuis tout à l'heure de vanter les mérites de nos pieds, d'en parler sans complexe, de nos extrémités. C'est super, mais il y a quand même certaines personnes, moi j'en connais certains très bien, qui ont honte des pieds, qui détestent les pieds, qui n'osent pas les montrer en été, qui ne mettront jamais des sandales, etc. Comment on peut expliquer ça?
Je pense que ça fait partie des choses que les gens ont l'habitude de cacher. Ils cachent leurs fesses, ils cachent leurs pieds de la même façon.
Ça dit quelque chose de nous, vous pensez, ces gens qui cachent leurs pieds comme ça, qui n'aiment pas les pieds?
Je pense que ça dit surtout qu'il y a une éducation derrière qui a été très contraignante. Parce que c'est sûr que si vous vous pointez pour une embauche en costume workwoman
et tongs,
et puis pieds nus, nus carrément, même avec du joli vernis et tout ce qu'on veut, on va vous regarder bizarrement.
Hein. Bien sûr.
Et France, à l'inverse, quand même, nos pieds seraient aussi apparemment une source d'érotisme. C'est Mélanie qui m'a dit ça. Hein. On peut dire que chez tous, qu'on l'assume ou pas, le pied pourrait être une zone érotique. Vraiment, et si oui, est-ce qu'il y a, je sais pas, comment stimuler cette région pour en tirer les meilleurs bienfaits?
Alors, si vous l'avez jamais essayé, c'est le moment, parce que faut vous dépêcher. Hein.
Faut que je vous masse les pieds, Julien.
Non, mais c'est super important parce que c'est une zone hyper sensible, très très énervée. C'est pour cette raison que les gens ont tellement de mal à marcher pieds nus quand ils n'ont pas l'habitude. La position des chaussures à talons, c'est une position très érotique. C'est une position que prennent les pieds.
Très cambrée, comme ça.
Dans la jouissance.
Ah oui,
quand on est au maximum de jouissance, on a les pieds qui se tendent.
Bah, on n'est pas à plat,
Ah, on est, oui, mais quand même.
Donc voilà. Vous incitez quoi? À nous masser les pieds, à leur faire du bien? Vous le faites de vous masser?
Non, surtout, c'est surtout à deux, avec son conjoint. C'est super intéressant parce que le massage du corps, il passe par toutes les zones du corps et les pieds en font partie. Orteil par orteil, etc. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. On paie des gens pour faire de la réflexo plantaire.
Faites-le avec vos amoureux.
Autant se faire masser par quelqu'un qui vous aime.
Ah oui. Moi, je prends tous les conseils de France. Vous êtes très inspirante. Muriel, on a dit qu'on parlait des ongles avec vous aujourd'hui. La chaleur est là et on a tendance à les exhiber plus volontiers nos orteils avec notamment du vernis pour les femmes, même voire pour les hommes aujourd'hui. C'est de plus en plus à la mode aussi chez eux. Il n'y a pas un risque quand même, Julia, elle a les ongles vernis tout le temps. Et je lui dis, moi, je fais des pauses de temps
c'est
en temps.
Pas bien.
Parce qu'il y a quand même des produits chimiques dans les vernis, on est d'accord. Est-ce que c'est dangereux d'avoir du vernis non-stop toute l'année?
Oui, c'est pas une bonne idée. Alors, aux mains, l'avantage, c'est qu'on va le changer parce qu'il s'abîme. Aux pieds, il s'abîme beaucoup moins vite. On va les garder longtemps.
Ils sont plus costauds, les ongles des pieds, que les ongles des mains?
Alors, ils sont plus costauds, puis ils sont moins soumis à des agressions extérieures. Hein. On se sert différemment de ses mains et de ses
pieds.
Sauf
France, qui ramasse tout avec ses pieds, mais voilà. Pour les autres,
c'est ça. Mais qu'est-ce qui abîme? C'est le dissolvant? C'est quand on veut les enlever?
En fait, c'est que le vernis va faire une couche sur l'ongle qui va étouffer l'ongle. Donc, souvent, quand on va enlever le vernis qu'on n'a pas enlevé depuis longtemps, va avoir des petites taches blanches sur l'ongle.
Ah oui.
Ça, c'est des moisissures. Hein. C'est des petites levures qui sont présentes.
Alors, parfois, l'ongle est plus jaune. Hein,
on
aussi,
va l'enlever, voilà. Mais c'est ça le problème, c'est que le vernis va camoufler tout. Quand on l'a, c'est bien, c'est joli. Mais en dessous, il peut y avoir plein de problèmes.
Donc, il faut laisser aérer un peu. C'est ça, il se remet facilement, l'ongle?
Oui. En 2-3 semaines, ça se remet. Pas de souci. Il faut éviter d'enchaîner et puis surtout d'éviter de mettre couche sur couche. Et de temps en temps, de faire des pauses, c'est bien.
Et on met des crèmes, des huiles végétales pour les ongles? Je crois que ça existe, ça.
Oui, on a maintenant, il y a de plus en plus des huiles, des huiles sérums pour nourrir les ongles, pour les hydrater, pour leur permettre de les purifier.
C'est indispensable d'avoir des produits vraiment dédiés, parce que si on a des huiles végétales à la maison, j'en sais rien, on ne peut pas utiliser n'importe quelle huile finalement pour les ongles. Oui.
Il y a des choses spécifiques, donc autant faire les bons gestes avec les bons produits pour ne pas perdre de temps et d'aller chercher en pharmacie ou parapharmacie les bons produits.
On a une question d'auditrice Anani sur Instagram qui dit « J'ai les ongles des pouces, des pieds bleus. On m'a dit qu'en marchant, je me faisais des micro-bleus. » Est-ce qu'on peut lui répondre rapidement?
Oui, en fait, c'est des hématomes. C'est-à-dire que quand elle va marcher, alors ça arrive souvent quand on fait de la randonnée en descente ou quand on a des chaussures qui ne sont pas adaptées ou ceux qui font des grandes courses, il va y avoir des micro-traumatismes en permanence.
C'est pas très bon quand même.
Ben, ça veut dire qu'il y a un moment, il va falloir aller chercher la cause. Pourquoi est-ce qu'on a ces ongles qui sont bleus? Parce qu'il y a un moment, c'est un frottement, c'est une ampoule qui se fait sous l'ongle et qui est sanguinolente. Donc ça fait assez mal parce que ça fait vraiment une pression sous l'ongle. Donc,
changer de chaussure éventuellement,
il faut trouver
la solution.
Bon, moi, il y a une question qui me turlupine et qui turlupine également Martine sur Facebook qui demande s'il est vrai qu'on peut prendre froid par les pieds comme le prétendent certains, enfin surtout les mamans.
France, je crois que vous avez la réponse. Est-ce qu'on prend froid par les pieds?
Je ne suis pas d'accord du tout.
Ah bon? Parce qu'on dit à nos enfants, mets-toi des chaussettes, tu vas prendre froid par les
pieds. Mais des pantoufles, moi, à la maison, tout le temps, maman, on disait ça.
Vous n'avez pas remarqué que les enfants, en général, ils se déchaussent à la maison. Ils se mettent même tout nus.
Ouais.
Donc, on ne prend pas froid par les pieds. On ne prend froid par les pieds que si on manque de graisse brune dans le corps. Mais ça, on est dans
une autre émission. Voilà. Donc, on n'attrapera pas froid par les pieds. Je ne sais pas si vous allez confirmer, Muriel. J'ai une dernière petite question pour vous. C'est l'été, il fait beau, il fait très chaud en ce moment même. Donc on va mettre des chaussures plus ouvertes. Est-ce que la podologue que vous êtes, elle préfère quoi? Que je m'achète une nouvelle paire de ballerines, de sandales 12 cm ouvertes, des sandales toutes plates? Est-ce qu'il y a des chaussures qui sont meilleures que pour nous que d'autres en été?
Oui, il y a des chaussures qui sont plus intéressantes. Un bon nu-pied, ça va être une chaussure qui vous tient au pied, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de lanières pour faire en sorte de pas taper au niveau du talon.
Donc, Julia, les sandales n'est pas tenues à l'arrière de la cheville.
Voilà, elles ne sont pas tenues à l'arrière. Ça, là, on n'est pas trop mal. En plus, on a un bon maintien. Vous ne crispez pas les orteils pour les sortir.
Moi, j'ai des grosses plateformes. Là, alors, avec
Mélanie, on est sur des chaussures. Le talon est un peu haut.
Ouais, hein, plus petit, c'est mieux.
Plus petit, c'est mieux. Les lanières sont bien, mais le talon est un peu haut. On va, par contre, éviter au maximum de marcher avec des tongs. Hein, ça, c'est primordial. La tongs, que c'est pas fait pour.
Aller à la plage éventuellement, mais on marche pas toute la journée avec ça. Ah, c'est
exactement.
Ça
et puis on va éviter les chaussures, alors pour le coup vraiment trop plates.
Les ballerines trop plates. Vous aimez pas ça du tout, je sais.
Non. Voilà, ça c'est pas terrible parce que ça crée des ondes de choc, c'est pas exceptionnel. Bon. Et puis trop haut, bien évidemment, c'est pas bon non plus.
Ouais, c'est mal. Les chaussures entre les vôtres et les miennes, on met un mix, je pense que ça devrait aller. Merci beaucoup à toutes les deux pour cet entretien. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale du pied. Vous pouvez trouver encore plus d'infos ou de conseils sur le site www.santé-du-pied.com. www.europe1.org.
Eh bien, merci encore à vous deux, Mélanie. Maintenant, merci. On va passer à notre séquence tendance. Il est presque l'heure. Philippine Darblay va nous expliquer déjà pourquoi la tarte tropézienne est le dessert de cet été en particulier. Certains chefs vont twister sa recette ou la fabriquent en version allégée. On verra si on valide tout ça. Et puis, Benjamin Lévesque nous dira, lui, ce qu'on doit penser de cette mode du brossage à sec. Est-ce vraiment le geste beauté qu'il faut adopter, voilà, on va vous expliquer tout ça, à tout de suite.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Oh là 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 là, c'est pas possible, on va vous décrire ce qu'on voit. Vous êtes sur Europe 1, déjà vous êtes sur Europe 1, merci d'être avec nous. Vous êtes de retour dans Bienfait pour vous jusqu'à midi en direct. On débute tout de suite notre partie consacrée aux tendances. Mélanie, tenez-vous, je me tourne d'abord vers vous, Benjamin.
Il y a des
Lévesque.
Centaines de tartes tropéziennes dans ce studio, des petites, des grandes, de toutes les couleurs.
Des centaines de tartes tropéziennes, mais c'est pas... Écoutez, Benjamin Lévesque, on va essayer de faire diversion pour que ouais. Mélanie n'ait pas tout de suite la bouche pleine. Je crois que vous n'allez pas forcément nous brosser dans le sens du poil ce matin.
Non, je vais pas vous parler non plus du brossage des cheveux, même si c'est important de le faire tous les jours. Non, là, c'est le brossage du corps. Alors, c'est pas hyper agréable, mais ça a de nombreux bienfaits. On en parle tout de suite.
Ah non, oui, parce qu'avant, on a un truc à faire. Mais merci, Benjamin. Préparez bien vos brosses. Mais pour le moment, c'est Philippine Darblay qui prend le micro. Bonjour, Philippine.
Bonjour à tous.
Vous allez donc nous parler de la tarte tropézienne.
Bon, allez, c'est bon, Julien, laissez-la parler.
Un incontournable de l'été, grand classique de la boulangerie qui est devenu depuis peu la coqueluche de nos chefs pâtissiers.
Et oui, bah, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on l'adore. Bon, petit rappel, la tarte tropézienne, c'est quoi? C'est une belle brioche bien moelleuse, souvent à la fleur d'oranger, avec des gros grains de sucre comme ça par-dessus. Elle est coupée dans la longueur et elle est garnie de crème. Alors généralement, c'est une crème mousseline qui est un mélange de crème pâtissière et de crème au beurre, comme vous l'imaginez, assez gourmand. Alors pour ceux qui n'ont encore jamais goûté cette merveille, je vous propose d'écouter notre illustre chef pâtissier Philippe Conticini nous décrire la sensation en bouche.
Quand on croque dans la tropézienne, on a immédiatement... Le sucre grain, c'est la première chose qu'on croque avec les dents, le sucre grain. Puis, on a ce côté extrêmement fondant de la pâte à brioche. Alors, on parle d'une très bonne tropézienne, hein. Extrêmement fondant. Évidemment, la crème qui vient entourer, enrober tout ça, et qui fait que si c'est vraiment bon, ça peut devenir addictif ce truc. Hein. Vraiment. Parce que c'est bon, quoi. C'est super bon.
Oh bah Julia, elle est en train de commencer, évidemment. Bah, non, c'est pas ça, c'est Philippe Conticini. Il la prend en bouche.
Alors,
vous goûtez la sienne.
Donc, on peut le croquer maintenant.
Voilà. Quelle est son histoire, alors, Philippe?
Bah, évidemment, ça démarre à. Saint-Tropez, exactement, en 1955, quand Alexandre Mika, qui est un chef pâtissier d'origine polonaise, c'est assez surprenant, fait goûter sa recette de famille à notre iconique Brigitte Bardot sur le tournage de « Et Dieu créa la femme ». Ça en fait quand même hein, quelques symboles pour une tarte. Hein,
ça
c'est
va,
quand
c'est
même
Brigitte
pas
Bardot qui a testé et validé, moi j'y vais. Hein,
exactement.
Enfin, elle a pas dû en manger beaucoup. Hein.
Eh bien, Sacha Dufresne, qui est aujourd'hui le directeur général de ce qui est devenu la tarte tropézienne, donc c'est la maison originale, rappelle que la recette restera intacte, mais que ça n'empêche pas les nouveautés.
Concernant la recette, le mot d'ordre est de ne surtout rien changer. On reste sur un mélange de crème. C'est notre secret. En revanche, on l'adapte avec des versions aux fruits, aux fraises fraîches ou aux framboises fraîches, avec également d'autres formats, comme notre nouvelle petite star, la Baby Trop, parfaite pour les belles occasions de l'été.
Voilà, alors c'est
la
Baby Trop.
J'ai déjà acheté mille fois, celle-là, je l'adore.
Mais elle est magnifique. Puis surtout,
c'est
là,
les
Baby Trop, c'est vraiment un format qui se mange en une bouchée qui est magnifique. On peut les trouver dans leurs 27 points de vente sur la côte. Et la très bonne nouvelle, c'est qu'ils livrent partout en France en 24 heures. Et c'est pour ça qu'on a la chance de les avoir aujourd'hui avec
ça,
nous. Voilà.
C'est génial. Et apparemment, on trouve aussi des versions très originales. Hein.
Bah oui, maintenant que les chefs pâtissiers s'en emparent, ils la subliment, ils la twistent et ils la rendent même ultra créative. Et ça, c'est un constat de Julie Mathieu, qui est cofondatrice de Food Pâtissier et qui est cofondatrice de Food Pâtisserie, qui est le média dénicheur de nouveautés sucrées avec 1 million d'abonnés sur Instagram.
Auparavant, la crème était tout simplement étalée à la palette, hein, au milieu d'une brioche sucrée. Et maintenant, on la poche de façon très raffinée. Et puis chacun peut réaliser sa version de brioche ou de crème. On voit une crème diplomate, par exemple, on voit des crèmes légères et on voit toutes sortes de brioches. Comme par exemple les Dorner Frères à Lyon, qui ont une version avec une brioche feuilletée et au milieu un pochage en gouttes qui est tout à fait magnifique.
Bon, alors, qui réalise les tartes tropéziennes les plus créatives, selon vous?
Alors, honnêtement, il y en a des tonnes. Dans l'ambiance feuilletée, comme ça, des Dorner Frères, il y a aussi la sublime version du chef Laurent Margaillan, qui est au Grand Hôtel du Cap Ferrat. Mais je vous propose de tester, là. Vous avez devant vous celle de Philippe Conticini.
Non, malheureusement, on l'a déjà avalée.
Ah, oui.
Mélanie, elle a carrément fini. Elle est délicieuse. Il y a une pointe de fleur d'oranger.
Et tout à fait. Et même de miel pur. Oh, comme là, ça, ça permet une explosion très, très, très délicate en bouche. Vous avez aussi la création de Nicolas Bernard, qui est à la Garenne Colombe. Là, c'est un cake tropézien qui est tout en longueur. Franchement, il est délicieux. C'est un cake riche. Il y a des inserts d'agrumes confits. Il y a un dôme aux amandes croquants. Franchement,
très original.
C'est exactement, très original.
J'adore.
Et dans la même veine de... dans la même veine de choses très originales, il y a la création de Jeffrey Kynes, que vous connaissez quand même bien, qui sort un trop dog. En fait, c'est comme un hot dog, mais sucré. Alors attention, c'est à l'orange sanguine et il y a un cœur au caramel. Voilà. J'adore parce que quand généralement quand il y a plus de bruit autour de
la
table.
Est-ce qu'il y a des versions allégées?
Oui, tout à fait. Il y a des versions allégées.
Là, on a un taux de glycémie qui est à son maximum, Julien. Ah.
Je fais un pic là.
Il y a la version des Belles Envies que vous avez aussi devant vous, qui est une maison qui adore revisiter les classiques avec un faible impact glycémique. Ah. Et je dois dire que c'est souvent très surprenant. Là, par exemple, ils ont remplacé la farine blanche par de la farine semi-complète et de la farine de lupin, le sucre blanc par du sirop d'agave et du sucre de fleur de coco, et les grains de sucre par des amandes effilées. Voilà. Comme
on va l'ajouter, mais ça ne sert plus à rien pour limiter l'impact, parce que là, vu le taux de sucre qu'on a ingurgité, Julia, je pense que l'alléger, c'était plus... est-ce que vous avez quelques conseils de dégustation?
Oui, j'ai quelques conseils de dégustation. Alors, Philippe Conticini lui-même rappelle que tout doit être monté et dégusté dans la journée. On ne perd pas en fondant. Et Sacha Dufresne insiste, lui, sur la température ambiante. Surtout, il ne faut pas qu'elle soit trop froide, sinon on perd en goût. Et j'oublie d'en préciser une. Il y a The French Bastard qui en propose bientôt à la châtaigne et au praliné macadamia. Voilà.
Miam, miam, miam. Merci beaucoup, Philippine, pour cet éclairage gourmand. Benjamin, on est vraiment repus, là. On n'a plus qu'à vous écouter.
Je prends rien de temps pour
digérer.
Vous, là.
On va faire peau neuve avec vous ce matin, puisque vous avez testé un soin de plus en plus tendance, c'est le brossage à sec. Ça vient d'où et pourquoi on en entend de plus en plus parler?
Oui, le brossage à sec, qu'on appelle aussi le brossage lymphatique. Alors, il est très pratiqué depuis des siècles en Asie, hein, plus précisément en Inde. Ça fait partie de l'Ayurveda, hein, cette médecine traditionnelle indienne. Alors, le principe, c'est très simple. On prend une brosse et on vient brosser donc l'ensemble du corps, des extrémités jusqu'au cœur, et on dit à sec puisqu'on n'utilise aucune crème, aucune huile. On trouve aussi des traces de ce soin en Russie. On frottait la peau avec des branches de vénic, hein, pour favoriser la circulation sanguine. Alors ici en Occident, on n'en avait pas trop entendu parler, jusqu'à ce que certaines stars, comme la célèbre mannequin Miranda Kerr ou encore l'actrice Gwyneth Paltrow, hein, bien connue pour être une adepte de la beauté naturelle, ne vantent les mérites de ce soin ancestral. Et depuis, patatras, tout le monde s'y met et beaucoup d'instituts aujourd'hui proposent ce brossage à sec.
Mais et c'est vraiment si bien que ça? C'est quoi véritablement les bienfaits, Benjamin?
Alors Julia, je vous ai trouvé deux bonnes raisons de pratiquer ce brossage à sec. La première, c'est que ça va faire un gros gommage, hein. Donc vous ressortez avec une peau toute douce, toute lisse, hein. Les poils de la brosse vont venir retirer toutes les petites peaux mortes. Et puis après, quand vous allez appliquer votre huile ou votre crème, elle va mieux pénétrer la peau et donc être plus efficace. Et le deuxième effet de ce brossage à sec, c'est qu'il va faire un drainage lymphatique, hein. Si vous faites de la rétention d'eau, si vous avez des jambes gonflées ou des œdèmes...
C'est pour vous, Julia. C'est moi. J'ai les mycoses et les jambes gonflées.
C'est pas moi qui l'ai dit. Eh bien, ça va soulager les personnes comme vous, Julia, comme l'explique la dermatologue Dermatodray.
La lymphe, c'est le liquide qu'il y a dans la chair de notre corps. Et ce liquide, il peut un peu stagner, notamment au niveau des jambes, quand on passe du temps en station debout ou en station assise. Et donc, on peut le faire circuler quand on marche, mais on peut le faire circuler par le massage aussi. Donc, le brossage, finalement, par ces mouvements répétés et en remontant, va permettre d'aider la circulation de ce liquide.
Et puis, bonne nouvelle pour vous, les filles, selon cette spécialiste, toujours pratiquer ce brossage régulièrement, et bien ça permettrait de diminuer la cellulite, puisqu'en fait, le fait de masser, ça va assouplir les reliefs de la cellulite et donc être moins visible.
Bon, ce brossage à sec, il est pour les dames, mais aussi pour les messieurs. Comment ça se déroule, puisque vous l'avez testé, hein, je crois, ce brossage à sec?
Effectivement, je me suis rendu au spa Deep Nature en banlieue parisienne. Alors, je préviens, si vous cherchez un soin, un bon moment de détente, ne choisissez pas ce brossage à sec, puisque là, on peut le dire, il faut souffrir pour être beau. Écoutez.
Alors, je laisserai vous allonger sur le lit, la tête dans la tétière, et en vous recouvrant d'une petite serviette. Donc là, je vais ressortir la brosse et respirer un bon coup.
Vous avez juste déjà posé la brosse, j'ai déjà mal.
Donc toujours des mouvements vers le haut. pour remonter la circulation sanguine et réactiver la lymphe. Benjamin, du coup, là, je vais insister sur les cuisses, le ventre et les fesses parce que c'est là les zones où il y a le plus de cellulite.
Ouais, il faut serrer un petit peu les dents pour les cuisses.
Là, c'est des mouvements, toujours des lissages et des mouvements en rotation. Donc, Benjamin, là, je passe au ventre. À mon avis, vous allez rigoler.
Pas rire, ça fait mal. Oh là là, c'est vrai que j'ai le ventre tout rouge, oui. Là.
Et du coup, je termine avec les bras, toujours en remontant vers l'arrière et du coup, les aisselles.
Mais donc, ça me donne vachement envie. Ouais,
j'avais le corps tout rouge. Hein,
les fesses aussi, j'imagine.
Les fesses aussi, ça durait une quinzaine de minutes à peu près.
Mais je suis sûre que ça, c'est beaucoup de bienfaits à la sortie. Mmh. Et on peut le faire à la maison ou pas?
Ouais, bien sûr, il suffit d'acheter une brosse. Alors, je vous en ai rapporté une, tenez. Je vous la fais.
J'en ai une à la maison, mais je n'ai jamais essayé encore.
Philippine, donc là, c'est la marque Terraqué. Donc, ça ressemble à une brosse pour cheval.
Et
donc, voilà.
Toute la peau morte qui
tombe.
Mélanie, moi.
Oh là là, mais je savais pas que j'avais autant de peau morte.
Bah oui, chaque jour la peau sécrète.
Ma peau vole dans le studio.
Brossez-moi.
Donc vous avez des brosses comme ça avec des manches, donc très pratique. Si vous le faites seul comme ça, vous pouvez le faire dans le dos. Et puis vous avez aussi des brosses qui tiennent dans la paume de la main. Voilà, donc Mélanie est en train de brosser Julia
en direct.
Voilà.
Un brossage intense.
Il y a pas mal de peau morte qui tombe. Hein,
elle en manque pas non plus de la peau morte, hein, je vous le dis. Hein.
Donc voilà, il y a des
46 ans tout cette peau morte.
Et il y a des brosses aussi plus petites qui tiennent dans la paume de la main et donc qui sont un petit peu plus maniables. Attention quand même à bien choisir le type de poil de la brosse, comme le dit Léa Krakovic, qui est la fondatrice de l'Institut Les Jolies Pommettes à Paris.
Moi, ce que je recommande, c'est des poils de sanglier parce qu'ils vont être naturels et ils vont être plus durs. L'idée, c'est quand même que ça soit pas une brosse trop molle pour que ça vraiment oblige le corps à éliminer toutes ces toxines. Donc, on va vraiment tracer le chemin sur le retour veineux.
Voilà, donc pour les acheter, vous en avez sur Internet, vous pouvez aussi vous rendre dans des instituts de beauté, et puis certains magasins comme Nature et Découverte.
Combien ça coûte, Benjamin?
Alors c'est pas très cher, la brosse, c'est entre 15 et 30 euros, on recommande de le faire au moins une fois par semaine, c'est l'idéal, donc du haut vers le bas et puis des mouvements circulaires, mais on peut aussi aller en institut, mais là c'est un petit peu plus cher, c'est entre 50 et 100 euros.
Et il y a des contre-indications où vraiment faut pas le faire?
Oui, bah je jamais le faire si vous venez d'avoir un coup de soleil ou si vous venez de vous faire épiler, ça coule de source, mais aussi si vous faites de l'eczéma ou si vous avez des plaies comme du psoriasis. Ah. Puisque là, le brossage risque encore d'irriter encore plus la peau.
Dites-moi, Romain Desarbres, sur le visage. Vous qui venez d'arriver en studio, vous êtes déjà fait brosser à sec?
Non, jamais.
Et ben, vous savez,
regardez ce son là, parce que je pense que
ça va. On découvre toujours des pratiques.
Chez nous, vous apprenez plein de choses. Hein,
ouais.
Et bien, merci. En tout cas, merci Benjamin vraiment pour ce reportage et cette enquête de terrain. C'était très courageux à vous. On vous remercie. Bon, j'espère que vous qui nous écoutez, surtout, vous avez passé une heure sympathique et utile en notre compagnie. Nous serons de retour demain dès 11h. Et Mélanie, quel sera notre sujet du jour?
Alors demain, on va vous poser cette question. Pourriez-vous être minimaliste? Mais c'est quoi au juste le minimalisme? Vous verrez que ce n'est pas seulement consommer moins. Cela peut aller encore plus loin, toucher tous les domaines de notre vie, relations sociales, loisirs ou même boulot. Alors comment viser cet objectif? On fera le point avec nos experts.